Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mercredi 21 juillet, notamment par les activités du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Rwanda, en Tanzanie et à Madagascar, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le Saint-Père a adressé un télégramme aux nonces apostoliques en Irak, Monseigneur Lescovar. Télégramme dans lequel il fait part de ses condoléances après le tragique attentat suicide qui a ensanglanté la capitale irakienne mardi. Sa sainteté, le pape François, peut-on lire dans ce télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, a été profondément attristé d'apprendre la nouvelle de la perte de vie dans l'explosion du marché Al-Wuhailat à Bagdad et envoie ses condoléances aux familles et amis des personnes décédées. Confiant leurs âmes à la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, poursuit le télégramme, sa sainteté renouvelle ses ferventes prières pour qu'aucun acte de violence ne vienne freiner les efforts de ceux qui s'engagent à promouvoir la réconciliation et la paix en Irak. Rappelons qu'un kamikaze a actionné sa ceinture explosive sur un marché populaire de Sadr City, banlieue chiite du sud de Bagdad, faisant au moins 36 morts et une soixantaine de blessés. Le pape a également adressé au recteur Franco Anelli de l'Université catholique à Rome une lettre qui a réchauffé le cœur de toute la famille universitaire. Son admission à la polyclinique Gemelli, écrit le pape, a eu lieu l'année même où l'Université catholique a célébré son premier siècle de vie. François a envoyé sa bénédiction à tous ceux qui composent la famille de l'Université du Sacre-Cœur. Le Centre jésuite de réflexion théologique de la Zambie a, dans un rapport publié dimanche dernier, appelé les électeurs du pays à examiner minutieusement tous les messages de campagne proposés par les candidats avant les élections du 12 août, en recherchant ce qui vise à relever les défis économiques du pays. Il est pertinent pour tous les électeurs de scruter les messages que les différents leaders politiques avancent dans leur campagne électorale pour le scrutin d'août afin de voir s'ils abordent les défis économiques, ont déclaré les jésuites du Centre jésuite de réflexion théologique. La Zambie, disent-ils, est indéniablement confrontée à des problèmes sociaux et économiques clés qui nécessitent des solutions urgentes, des solutions durables et réalisables aux défis de la nation devraient être au cœur des différents thèmes de campagne en mettant l'accent sur la défense du bien-être commun et de la dignité de chaque Zambien. Le cardinal Laurent Monsengwo a été inhumé mercredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Il a reçu les hommages de la nation congolaise mardi 20 juillet. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a décoré à titre posthume de la médaille de grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba à l'issue de la messe présidée sur l'esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement, par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Kinshasa.
Merci était le mot le plus entendu ce mercredi 21 juillet dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, lors des funérailles du cardinal Laurent Monsengwo, archevêque émérite de Kinshasa, décédé le 11 juillet à Versailles en France. Après la messe et les absoutes, le corps du cardinal Monsengwo a été placé dans le caveau aménagé dans la cathédrale, aux côtés de ses prédécesseurs sur le siège archiépiscopal de Kinshasa, les cardinaux Frédéric Etsou et Joseph Albert Malula. Dans les médias et dans bien des espaces publics, des affiches, des programmes audiovisuels ont célébré Laurent Monsengwo, tout un symbole pour la nation, comme on a dit. Monsieur l'abbé Léonard Santédi, recteur de l'Université catholique du Congo, a ainsi exprimé les condoléances de l'Association des théologiens africains.
L'Association des théologiens africains et l'Association des universités catholiques du Congo pleure avec l'Association panafricaine des exégètes catholiques, l'un de ses pères fondateurs, le prélat qui promue l'attachement de ses membres à l'excellence dans la recherche et la lecture africaine des Écritures saintes en vue de l'évangélisation du continent africain.
Jean-Baptiste Malenge Kalouzou pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, l'abbé Éric Norbert Abécan du clergé diocésain d'Abidjan a été nommé par la Conférence épiscopale ivoirienne à la tête du secrétariat exécutif national de la sous-commission justice, paix et environnement pour un mandat de 3 ans, complément d'information avec notre correspondant local.
Il fait partie des 5 nouveaux secrétaires exécutifs nationaux nouvellement nommés par la Conférence épiscopale ivoirienne au thème de sa 119e assemblée plénière tenue récemment à Borne dans le diocèse de Yopogon. Le père Éric Norbert Abécan du clergé diocésain d'Abidjan a été chargé de piloter les activités de la sous-commission Justice, Paix et Environnement. Sa nomination a laissé entendre Monseigneur Ignace Bessy Dogbo, président de la Conférence des évêques catholiques Côte d'Ivoire, est motivé par sa forte personnalité d'homme de paix, de dialogue, de contact, mais également de rencontres.
Il faut regarder d'emblée le charisme personnel de l'abbé Norbert Abécan, qui, nous le savons tous dans notre pays, est un prêtre de dialogue, de contact, de rencontre. Et il convient que cela soit valorisé par lui-même, il le fait déjà, mais valorisé aussi par l'Église. Je pense que sa nomination apportera beaucoup par sa personnalité et puis aussi par sa capacité de collaboration. Et cela aidera notre pays qui est en voie de réconciliation à y aller de manière résolue et de manière ferme.
Accueillant la nouvelle de sa nomination, le père Éric Norbert Abécan dit l'avoir accepté avec joie.
Je voudrais tout simplement apporter mon expérience à l'Église et donc j'acceptais d'apporter ma contribution pour la cohésion sociale, pour la paix dans notre pays. J'acceptais cette nomination et je bénis Dieu. Je dis merci à nos pères archevêques et évêques m'ont fait conscience.
Depuis le 21 décembre 2020, il est ambassadeur de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Au Bénin, les femmes catholiques de ce pays, dans l'archidiocèse de Cotonou, ont lancé leur année jubilaire au sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde à Alada. Reportage.
La célébration diocésaine de l'Organisation des femmes catholiques du Bénin dans l'archidiocèse de Cotonou a été ouverte le samedi 17 juillet 2021 au sanctuaire Maria Notre-Dame de la Divine Miséricorde à Alada par leur aumônier diocésain, le père Thierry Amoussou. Elles étaient plus de 400 femmes venues de diverses paroisses et stations secondaires à vivre l'événement sous le thème « L'éducation affective des enfants ». Osez en parler aujourd'hui. Le père Amoussou nous a éclairé sur le choix de ce thème.
Nous avons remarqué que la question liée à la sexualité et à l'affectivité pendant très longtemps a été un sujet tabou. Et les parents du mal abordaient ces questions avec les enfants. C'est désormais une obligation pour les parents de pouvoir donner les notions nécessaires et les dispositions pratiques aux enfants en matière de sexualité et d'affectivité.
Mais le point d'orgue de cette première journée a été le panel sur le thème animé par des familles panélistes pour la plupart issues des écoles de formation au mariage. Madame Omi Tiesan-Christian, présidente du CESE de l'Organisation des femmes catholiques de Cotonou nous a instruit sur l'essentiel à retenir de ce débat comme fruit de leur noce d'or.
Nous devons être près des enfants, parler d'affectivité avec les enfants, les écouter, passer du temps avec eux, leur faire découvrir le côté positif de ce qu'est l'amour véritable.
De passage, l'aumônier national de l'organisation, le père Léon Bado du diocèse de Lokosa, a tenu à s'adresser aux sessionnistes.
Ma présence est pour vous dire que ce que vous faites, c'est bon, c'est beau.
Pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La justice malienne a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta, alors que l'agresseur présumé, dont les motivations et l'identité restent inconnues, était toujours entendu par les services de renseignement maliens. Un individu mal intentionné a tenté de porter atteinte à l'intégrité physique du président de la transition à la fin de la prière de l'Aïd al-Adha, mardi, à la grande mosquée de Bamako, a indiqué dans un communiqué le procureur du tribunal de grande instance de la commune 2 de Bamako, Burama Kariba Konate. Face à ces faits susceptibles des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives d'assassinat, une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière autour de cet événement, a-t-il ajouté. L'ancien ministre rwandais Augustin Gira-Batware, condamné à 30 ans de prison pour son rôle dans le génocide au Rwanda en 1994, purgera le restant de sa peine au Sénégal. C'est ce qu'a indiqué mercredi la justice internationale. Dans un document daté du 28 mai rendu public mercredi, le juge Carmel Ajous a ordonné le transfert de M. Gira-Batware au Sénégal pour l'exécution de sa peine dès que possible après le prononcé du jugement dans une autre affaire. Dans ce dossier distinct, M. Gira-Batware et trois de ses proches ont été reconnus coupables le 25 juin d'avoir cherché à soudoyer et intimider des témoins dans le but d'annuler la condamnation pour génocide à l'encontre de l'ancien ministre. Le principal parti d'opposition tanzanien, Chadema, a annoncé mercredi l'arrestation de son président, Freeman Mbowe, ainsi que 10 autres membres du parti à Mwanza, où il prévoyait un rassemblement. Les autres leaders ont été amenés au commissariat de Mwanza, mais l'endroit où Freeman Mbowe a été amené n'est pas connu et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations sur sa localisation, a fait savoir le directeur de la communication John Mrema, demandant à la police d'indiquer où il se trouve et pourquoi il a été arrêté. Nous condamnons la répression des droits des Tanzaniens de la manière la plus forte. Ce sont des signes que la dictature qui avait cours sous le président John Magufuli continue, a-t-il ajouté. La Banque mondiale va financer des projets de développement à Madagascar à hauteur de 490 millions de dollars pour accélérer l'acquisition de vaccins contre la COVID-19 et appuyer des projets porteurs de croissance, ont indiqué les deux parties. Le premier projet à hauteur de 100 millions de dollars, environ 85 millions d'euros, un don négocié depuis plusieurs mois, a précisé le ministre de l'économie, Richard Randriamadrato, servira à l'achat de vaccins, mais aussi à renforcer les systèmes de santé. Un total de 40 millions de dollars, un don à titre d'urgence, selon le ministre, serviront à financer des projets d'agriculture durable et innovants, notamment d'irrigation selon ces deux sources. Les deux autres projets visent à bâtir la relance économique selon la Banque mondiale avec 150 millions pour les secteurs porteurs de croissance, à savoir tourisme, agribusiness et numérique et 200 millions pour l'entretien de 1200 kilomètres de route pour assurer leur longévité, sécurité et résilience climatique.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Le leader de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi, potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo, a été condamné dans la nuit de mardi à mercredi à 2 ans de prison. C'est ce qu'a indiqué son avocat Maître Papi Mbaki. Arrêté dimanche et détenu par l'Agence nationale des renseignements, M. Ndala a été jugé en procédure de flagrance et condamné à l'issue d'une audience d'environ 6 heures. Le parquet l'a poursuivi pour incitation à la désobéissance aux lois. Pourtant, l'interrogatoire de l'Agence nationale des renseignements a porté sur la proposition de loi sur la citoyenneté congolaise des candidats à la prochaine présidentielle, a expliqué Maître Mbaki. Nous irons en appel contre cette décision, a-t-il indiqué. Au moins 100 civils enlevés début juin par des hommes armés dans le village de Manawa, dans le nord-ouest du Nigeria, ont retrouvé leur liberté après 42 jours de captivité, ont annoncé mardi les autorités de l'État des Amphara. Le 8 juin, des bandits ont envahi le village de Manawa et enlevé 100 villageois, dont des femmes, à majorité de jeunes mères, des hommes et des enfants, selon la police de l'État des Amphara. Le ministre tunisien de la Santé, Fawzi Mehdi, a été limogé mardi soir à l'issue du premier jour d'une campagne de vaccination exceptionnelle ouverte à tous les adultes pour la plus importante fête musulmane en plein pic de contamination au coronavirus. Monsieur Mehdi est à l'origine de l'ouverture temporaire de la vaccination à tous les Tunisiens de plus de 18 ans pendant 2 jours, mardi et mercredi, à l'occasion des jours fériés de l'Aïd al-Adha. Cette ouverture a entraîné une ruée dans les 29 centres de vaccination concernés, causant des scènes de bousculade et de nombreuses déceptions face à l'épuisement rapide des doses disponibles. En Afrique du Sud, au moins 40 000 commerces sud-africains ont été pillés, incendiés ou vandalisés lors des violences meurtrières des derniers jours. C'est ce qu'a annoncé mardi le gouvernement. 40 000 commerces ont été touchés par des pillages, incendies ou actes de vandalisme dans la région de KwaZulu-Natal, a déclaré à la presse la ministre des Petites Entreprises, Kumbuzo Chaveni. C'est dans cette région que des troubles ont commencé le 9 juillet, d'abord sous la forme d'émeutes au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Depuis, ils se sont étendus sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid-19, gagnant Johannesburg et faisant plus de 200 morts selon les derniers bilans. Sur le plan économique, le gouvernement estime que ces violences vont coûter 50 milliards de rands, soit 3,4 milliards de dollars américains à l'économie sud-africaine.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne aujourd'hui le projet de protection sociale pour la pêche et l'aquaculture de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui plaide pour la nécessité urgente de transformer les réponses à court terme à la crise COVID-19 en stratégie à long terme pour se remettre des chocs en manière durable et équitable afin que les communautés et les pays vulnérables n'aient pas à être secourus plus tard lorsque les chocs s'aggravent.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Au Cambodge, par exemple, la pêche est cruciale pour l'économie du pays et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture y travaille aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour ramener les enfants sur les bancs de l'école. Les détails dans ce reportage de Anaïs Autin.
Le travail des enfants prive les enfants de leur potentiel et de leur chance d'obtenir un emploi décent. Le travail des enfants perpétue donc le cycle de la pauvreté.
C'est pourquoi la FAO travaille aux côtés du gouvernement cambodgien et de ses organisations partenaires pour lutter contre les causes premières du travail des enfants. Il est question de développer du matériel de sensibilisation et des outils visuels qui vont permettre de promouvoir l'égalité des sexes et de protéger les enfants du travail dangereux dans le secteur des pêches. La FAO organise également des formations au sein des associations de pêcheurs pour aider à identifier et à prévenir le travail des enfants. Les villages de pêcheurs sont souvent isolés, avec un accès limité aux écoles et aux transports. Par conséquent, les pêcheurs adultes sont souvent analphabètes et confrontés à la pauvreté. La mission de Shun consiste à les encourager à envoyer leur enfant à l'école. Il leur explique aussi comment cela bénéficiera à l'ensemble de la communauté.
Imaginons de pouvoir éliminer le travail des enfants au sein de la communauté. Dans un tel cas de figure, notre communauté pourra bénéficier de nombreux avantages. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'on aura un nombre suffisant d'enfants qui seront scolarisés, on comptera plus de ressources au sein de la communauté.
Chum Kumsi, la fille de Srum, est assise, les jambes croisées dans le noir, concentrée sur son livre qu'elle lit à l'aide d'une torche. Normalement, la jeune fille serait déjà debout à cette heure-ci pour aller pêcher avec son père. Mais ces jours-ci, elle se lève tôt pour aller étudier.
Chaque jour, je me lève à 5 heures du matin, je lis un peu et je me prépare pour aller à l'école à 6 heures.
Grâce aux efforts conjoints de la FAO et du gouvernement cambodgien, Kumsi va à l'école au lieu de travailler. Chaque jour, elle part à l'école en motocyclette.
Cela me prend une heure. J'arrive à l'école à 7 heures. Je pars de l'école à 10 heures. J'arrive à la maison à 11 heures. Je prends mon repas. Et puis, je vais pêcher avec mon père.
Elle aide son père à attraper le riel, un poisson utilisé pour préparer le praok, une pâte de poisson salée et fermentée, très populaire dans la cuisine cambodgienne. Puis, elle aide sa mère à nettoyer et à préparer le poisson pour le fumer ou bien le vendre. Ces derniers jours, pêcher suffisamment pour avoir de quoi dîner est devenu difficile, car le nombre de poissons ne cesse de baisser. Une raison de plus pour les enfants comme Kumsi d'être scolarisés.
Si ma fille pouvait passer son bac, cela me rendrait très contente.
Srum veut que sa fille bénéficie des opportunités qu'elle n'a jamais eues.
Je ne veux pas que mes enfants soient des analphabètes comme moi.
Lutter contre le travail des enfants grâce à l'éducation peut aider à briser le cycle de pauvreté. Cela contribue également à la sécurité des enfants et leur enseigne de nouvelles compétences qui leur permettront ensuite de trouver des emplois et de gagner des revenus plus stables.
C'était notre magazine sur le projet de protection sociale pour la pêche et l'aquaculture de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Cambodge, présenté par Anaïs Autin de la radio de cette structure des Nations Unies. La rubrique sur la culture avec Françoise Niamien.
Commençons notre rubrique sur la culture par la campagne de l'ONU Agissons, organisée à l'occasion de la célébration dimanche 18 juillet de la journée Mandela. Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. La journée internationale Nelson Mandela fut proclamé par l'UNESCO le 10 novembre 2009 et célébré le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, à la promotion d'une culture de la paix. Durant cette journée, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle. Le 18 juillet correspond à la date anniversaire de Nelson Mandela et le 18 juillet 2010, la première célébration correspondait à ses 92 ans. En France, la Palme d'Or, épilogue du Festival de Cannes, a tenu ses promesses malgré la pandémie. Le Festival de Cannes a frappé un coup dur en couronnant Julia Ducournau pour une œuvre contemporaine, Titane. La Française devenant la deuxième réalisatrice de l'histoire du festival à recevoir la Palme d'Or. Le jury présidé par Spike Lee, dont la nomination était elle-même historique car il est le premier artiste afro-américain à ce poste, vient récompenser la Benjamin de la compétition 37 ans. Elle reçoit sa palme d'or 28 ans après Jeanne Campion et la leçon de piano. Julia Ducournau a remercié le jury d'avoir reconnu le besoin avide et viscéral que nous avons d'un monde plus fluide et plus inclusif et d'appeler à plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Ce prix envoie un signal majeur pour une industrie qui s'interroge plus que jamais depuis 4 ans sur la place des femmes et l'égalité entre les genres dans le sillage de l'affaire Weinstein puis du mouvement MeToo. Seules 4 réalisatrices étaient en compétition cette année pour 24 films au total. Le climat a occupé une place plus importante que jamais avec une sélection spéciale de films sur l'environnement allant au-delà du manifeste comme avec Aïssa Maïga qui s'est connectée à son histoire familiale par marcher sur l'eau pour aborder la question de l'accessibilité de cette ressource. En Italie, dans un décor féerique, la Teatro Scala conquiert un nouveau public. Un ballet sur une scène glissante en bois qui flotte au milieu d'une piscine illuminée dans un décor envoûtant et à la belle étoile. La Scala de Milan a quitté ses nobles murs pour aller à la rencontre d'un public peu habitué à ces spectacles. Des lumières se reflètent dans l'eau turquoise de l'énorme bassin recouvert d'un filet des Bagni Misteriosi, bain mystérieux, un lieu culte de la scène milanaise né dans les années 30 qui se transforme en théâtre le soir. Au programme, des extraits de pièces contemporaines comme Sentieri de Philippe Krast ou Movement, Tustra Viking d'Andras Lukács, mais aussi des grands classiques comme Le Lac des Cygnes et Don Quichotte, chorégraphié par le légendaire Rudolf Nureyev. Un ballet qui se veut proche de son public et cherche à varier les registres.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.